Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, merci de votre fidélité et bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant, il est 5h30 ici à Paris.
Vincent Dublange.
Afrique Matin, une nouvelle édition. Et on commence bien sûr par le journal. À la une, la situation humanitaire qui continue de s'aggraver au Soudan et à l'extérieur du pays en guerre depuis plus de 2 ans. 4 millions de réfugiés en Égypte, au Tchad, en Éthiopie, au Soudan du Sud et un travail impossible. Vous allez l'entendre pour les humanitaires. Les agences de l'ONU, dont un convoi a d'ailleurs été attaqué lundi, convoi du PAM, de l'UNICEF, notamment destiné à aider les déplacés internes à El Fasher dans le Darfour Nord. L'UNICEF dit son indignation. Dans cette édition également, la cyber-militante kényane Rose Njeri, remise en liberté sous caution hier. Rendez-vous le 20 juin devant la justice pour l'une des fers de lance de la contestation contre la nouvelle loi de finances. L'air irrespirable en Afrique du Sud à cause de l'industrie et des centrales à charbon. Et c'est particulièrement vrai, nous dit un rapport de Greenpeace, dans la province du Gauteng, entre Johannesburg et Pretoria. On parlera également de la relance de ce projet de grand barrage sur le fleuve Congo en RDC, le projet Inga 3. La Banque mondiale accepte de financer en partie au moins les études de faisabilité. Les mois passent et la guerre ne semble pouvoir trouver aucune issue. Le Soudan est toujours davantage coupé en deux, l'ouest et le sud-ouest contrôlés par l'armée régulière et ses alliés. Les provinces du Darfour et une partie du sud-est qui sont aux mains des paramilitaires FSR, sauf la grande ville d'El Fasher qui est assiégée. Des millions de personnes ont fui de chez elles, dont une partie dans les pays voisins. L'ONU a communiqué ses derniers chiffres. Hier, la barre des 4 millions de réfugiés est désormais franchie. Un jalon dévastateur, disent les Nations Unies. Alexandra Banjon.
La guerre au Soudan a provoqué un véritable exil. Premier pays à accueillir ces réfugiés soudanais, l'Égypte, avec 1,5 million de Soudanais sur son territoire, installés principalement dans des quartiers pauvres en périphérie de la capitale, le Caire. Un choix en raison des liens culturels, langue, religion avec le Soudan. Vient ensuite le Soudan du Sud, qui accueille plus d'1,1 million de réfugiés en provenance du Soudan, mais dont la plupart sont des Sud-Soudanais qui sont repartis dans leur pays. Le Tchad paye également un lourd tribut. Depuis le début de ce conflit, le pays a accueilli plus de 850 000 Soudanais installés principalement dans des camps le long de la frontière et qui viennent s'ajouter aux quelques 400 000 réfugiés soudanais déjà présents dans l'est du Tchad depuis le début du conflit au Darfour dans les années 2000. Une pression humanitaire exercée sur l'est du Tchad qui est devenue insoutenable selon le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Enfin, la Libye, l'Éthiopie et la Centrafrique contribuent également à l'effort. Ils accueillent plus de 370 000 réfugiés soudanais.
Et parmi les points névralgiques du conflit en cours, El Fasher, capitale du Darfour Nord, et surtout plus grande ville de l'immense région orientale, et puis la seule que ne contrôlent pas les paramilitaires, ils l'encerclent depuis des mois, ils resserrent leur étau, et c'est dans ce contexte qu'un convoi humanitaire a été visé lundi. Des véhicules incendiés, le dernier bilan fait état de 5 morts. Ce convoi stationné à 80 km d'El Fasher, il attendait le feu vert. Les camions étaient clairement siglés, PAM, Programme Alimentaire Mondial, UNICEF, le Fonds pour l'Enfance de l'ONU, dont la porte-parole Eva Hinz dénonce ce matin l'attaque.
C'était un convoi d'une quinzaine de camions qui tentait d'atteindre des enfants et des familles dans la ville d'El Fasher, où sévit la famine. Le convoi se trouvait dans la ville de Koma quand l'attaque a eu lieu. Les camions UNICEF transportaient des suppléments nutritionnels et des produits d'hygiène destinés aux populations vulnérables autour d'El Fasher. Comme pour tous les convois humanitaires, nous avions communiqué à l'avance notre route. Les différentes parties étaient informées et savaient à tout moment où se trouvaient les camions. En ce moment, les besoins à El Fasher sont effrayants. Il est très difficile de faire entrer de l'aide dans cette ville et il y a des centaines de milliers d'enfants et de familles qui ont besoin d'aide. C'est pour cela que des convois comme celui-ci sont importants afin de pouvoir acheminer l'aide et soutenir la population. Nous condamnons cette attaque. Les convois humanitaires, les acteurs humanitaires, les infrastructures civiles ne devraient jamais être ciblés.
Et les deux belligérants se rejettent la responsabilité de cette attaque. Première audience, hier à N'Djamena sur le fond de l'affaire. Succès Masra était face au juge chargé d'instruire les accusations d'incitation à la haine et à la révolte et de constitution et complicité de bandes organisées, notamment l'opposant tchadien qui a été arrêté pour rappel. Mi-mai, chez lui, Succès Masra est accusé d'avoir incité à la violence entre communautés d'éleveurs et de cultivateurs dans le sud du Tchad. Ses avocats dénoncent une procédure politique contre l'ancien Premier ministre de transition. Ils se disent confiants et parlent d'une première audience au fond hier, donc, qui s'est bien passée. Ils ne donnent toutefois pas d'autres détails. Justice au Kenya, dans cette édition, la cyberactiviste Rose Njeri, je vous le disais en titre, est libre depuis hier, remise en liberté. Sous caution pour celle qui avait été arrêtée vendredi à Nairobi, la développeuse informatique a créé une plateforme en ligne qui permet aux citoyens kényans d'exprimer leur désaccord avec le projet de loi de finances 2026. Hier, au tribunal de Milimani à Nairobi, Rose Njeri a été formellement inculpée pour interférence non autorisée avec un système informatique. Une accusation qui tombe sous le coup de la loi contre la cybercriminalité, Gaëlle Alexam.
D'après le ministère public, Rose Njeri est responsable d'avoir créé un programme informatique qui inondait de messages indésirables la commission des finances du Parlement. Une atteinte, donc, aux consultations citoyennes en cours sur la proposition de loi de finances. Un argumentaire que la défense de Rose Njeri trouve fallacieux. L'acte d'accusation est gravement défectueux et ne peut servir de base à une plaidoirie, explique Faith Odhiambo, présidente de la Société kényane du droit. Cette affaire suscite une vive émotion au Kenya. Pour sa défense, Rose Njeri a joui des services d'une centaine d'avocats pro bono, dont l'ancien président de la Cour suprême, David Maraga, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kalonzo Musyoka, tous deux pressentis candidats à la prochaine élection présidentielle. Ils connaissent le pouvoir des idées et les redoutent, affirme Rose Njeri à la sortie de l'audience. À la jeunesse kényane, elle déclare « N'ayez pas peur de penser, soyez inspirés, restez fermes dans vos convictions, peu importe les intimidations ». Rose Njeri a recouvré la liberté hier après le paiement d'une caution de 100 000 shillings, environ 700 euros. La prochaine audience est prévue le 20 juin. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et le 20 juin, le tribunal devrait se prononcer sur la validité de ces accusations, disent des médias locaux au Kenya. Documenté la vie impossible des exilés africains en Libye. Ils sont autour de 20 000 à croupir dans les centres de rétention gérés par les gardes-côtes libyens. Ce sont les chiffres des organisations non gouvernementales et des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Ces organisations rappellent régulièrement que les gardes-côtes libyens sont financés par l'Union européenne. Bruxelles continue en effet de faire de la Libye un allié dans sa volonté de ralentir fortement l'immigration africaine vers l'Europe. Ouda Ibrahim a interrogé un chercheur qui documente depuis longtemps maintenant les exactions des services libyens.
Ahmad Lamloum a recueilli les témoignages de migrants interceptés en mer et dans le désert par les gardes frontières. Il visite régulièrement les centres de rétention. Ce chercheur, qui préside le centre d'études de Benghazi sur les migrants et les réfugiés, dénonce une corruption généralisée au sein des services sécuritaires.
L'ensemble des appareils sécuritaires ont compris que l'immigration leur ramène beaucoup d'argent. Ces appareils sont en concurrence entre eux, par exemple pour la gestion des migrants. Et il y a au moins 6 appareils sécuritaires qui interviennent dans ce dossier.
Ahmad Lamloum raconte les confiscations des téléphones portables et de l'argent des migrants dès qu'ils sont interceptés en mer par les gardes-côtes, alors que les navires utilisés sont financés par l'Union européenne. Les exactions et les vols des migrants en mer sont devenus la norme, explique le chercheur, et les autorités libyennes et européennes ferment les yeux.
Le ministre de l'Intérieur à Tripoli est lui-même impliqué dans cette affaire. Il sait très bien ce qu'il se passe dans les centres de rétention qu'il est censé gérer. C'est lui le premier responsable des gardes-côtes libyens et des gardes-frontières. C'est une première qu'un ministère de l'Intérieur intervienne pour garder les frontières alors que c'est du ressort de l'armée.
Malgré ces exactions, selon l'OIM, le nombre de migrants en Libye a augmenté de 4% depuis le début de l'année.
Des éléphants abattus pour nourrir les populations locales, mais aussi pour réguler les populations d'éléphants. Des dizaines d'éléphants vont être abattus au Zimbabwe dans le parc de la Save Valley Conservancy dans le sud-est du pays, annonce de l'autorité chargée de la conservation et de la gestion de la faune et de la flore dans le pays. Des abattages d'animaux trop nombreux, on en parle ce matin dans notre question d'environnement, alors que l'industrie de la pêche en Europe demande à tuer en masse les cormorans. Rendez-vous 5h20 en universel. L'environnement dans ce journal, on évoque ce rapport, je vous le disais, en titre publié par Greenpeace Afrique et par le Centre pour la Recherche sur l'énergie et la propreté de l'air. Il s'intéresse, ce rapport, à l'air que l'on respire en Afrique du Sud et notamment près de la capitale économique. Un sujet qui intéresse assez peu les pouvoirs publics. Claire Bargelès.
Ce n'est pas la première fois que Greenpeace se penche sur l'état de la qualité de l'air en Afrique du Sud. L'organisation avait déjà souligné dans un précédent rapport que le pays comptait parmi les plus gros pollueurs du continent. Cette fois-ci, l'accent est mis sur les conséquences en termes de mortalité, comme le détaille Cynthia Moyo, représentante de l'ONG.
En 2023, l'exposition aux particules fines était responsable de 42 000 décès prématurés en Afrique du Sud. Cela inclut plus de 1 200 enfants de moins de 5 ans et le coût économique de cette crise est faramineux. Il est estimé à plus de 960 milliards de rands en 2023, ce qui représente 14% du PIB de l'Afrique du Sud.
Certains territoires sont particulièrement touchés par la pollution de l'air, comme la région très développée autour de Johannesburg ou la zone du Mpumalanga, où se trouvent nombre de centrales à charbon. La militante Sharon Bonani habite pour sa part non loin de l'énorme usine pétrochimique de Sassol, considérée comme l'un des sites les plus pollueurs au monde.
Personne n'est tenu pour responsable face à toutes ces maladies qui apparaissent au sein de nos communautés. On octroie au contraire des permissions pour que ces entreprises continuent à tuer des gens.
Les auteurs du rapport appellent l'État sud-africain à s'aligner sur les seuils recommandés par les Nations Unies, qui sont 4 fois plus bas que ceux mis en place dans le pays. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
La Banque mondiale, au chevet d'un grand projet en République démocratique du Congo, l'institution financière internationale, approuve un nouvel appui budgétaire, un appui pour aider Kinshasa à financer les études préalables au barrage Inga 3. Inga 3, c'est ce grand barrage sur le fleuve Congo. Il y a déjà 2 autres barrages qui ont été construits dans les années 70 et 80. Ce projet Inga 3 est un vieux projet, il est à l'étude depuis une trentaine d'années. La Banque mondiale débloque donc pour les études préalables 250 millions de dollars. C'est la première tranche en fait d'une enveloppe globale qui pourrait atteindre 1 milliard, nous explique Charlotte Cosset.
C'est un engagement de 10 ans de la Banque mondiale pour transformer le secteur énergétique congolais. Mais l'organisation ne perd pas de vue les communautés environnantes estimées à 1 200 000 personnes. Thierno Bas, spécialiste du secteur énergétique.
Nous savons que les communautés locales ont souffert de la construction d'Inga 1 et 2, mais qu'elles n'en ont pas tiré les bénéfices. C'est pourquoi le premier objectif de ce programme est vraiment le développement dans les communautés locales, en leur fournissant de l'électricité durable, un approvisionnement en eau et une connectivité. Le deuxième objectif important est de stimuler la croissance et de créer des emplois. Enfin, c'est évidemment de développer les compétences des Congolais pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de ce programme.
Un exercice d'envergure inédit pour l'organisation, détaille Albert Zefak, le directeur de la Banque mondiale en RDC.
La Banque mondiale est extrêmement heureuse de déployer tous les instruments de son portefeuille. Un aspect important de ce programme, c'est l'approche unique du groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale, la SFI, l'IDA travaillent ensemble pour s'assurer que nous saisissons toutes les opportunités pour transformer l'économie. Le MIGA s'efforce de mettre des instruments de garantie à la disposition du secteur privé. C'est une approche très innovante que nous avons adoptée.
Pour concrétiser ce projet, la Banque mondiale travaille également avec les autorités sur la réforme de la Société nationale d'électricité et sur les questions de gouvernance.
Et pour décrypter plus avant ce projet, notre invité d'Afrique Soir était hier l'analyste économique congolais Kitenge, a retrouvé sur notre site internet. Sand Gayal Layel Mukao, mais avec beaucoup d'envie, c'est une sélection des léopards de RDC très studieuse qui est en ce moment dans le centre de la France à Orléans pour préparer le match contre le Mali demain et Madagascar dimanche. Match amicaux avec quels objectifs, Olga Massangou?
L'un des objectifs de ce stage pour Sébastien De Sabre, c'est d'améliorer la position de la RDC au classement FIFA.
On avait fait le choix de jouer contre 2 équipes africaines. Une qui était devant nous au classement FIFA, qui sera le Mali, et une autre qui sera Madagascar. Les équipes qui sont dans les 10 premières ou dans les 15 ou dans les 20 premières au classement FIFA choisissent des équipes qui sont également assez élevées au niveau du classement FIFA. Donc premier objectif, c'est déjà d'augmenter nos résultats pour augmenter notre classement FIFA.
Le sélectionneur des Léopards compte également profiter de ce rassemblement pour voir certains joueurs, parmi lesquels Pouloulou qui va porter pour la première fois le maillot des Léopards.
Travail et notamment sur ce stage-là pour encore voir certains joueurs, encore bonifier nos relations entre les joueurs pour essayer de s'améliorer, être prêt sur les dates du mois de septembre.
Si défensivement, l'équipe de la RDC est solide, en attaque, Sébastien De Sabre attend le déclic pour Simon Banza, Samuel Essende ou encore Cédric Wakambu en manque de réussite devant le but.
Si on prend les attaquants, celui je pense qui a marqué le plus souvent, c'est Fiston Mayele ou Meshack Eliak. Et on attend tous à un moment donné cet attaquant qui va prendre le lead en attaque.
Un stage important pour des sabres et son staff, dont les enseignements serviront pour les prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
Il est 4h44 dans la capitale congolaise.
Afrique Matin sur RFI. Vincent Dublange.
Et à suivre dans les prochaines minutes. Tiens, justement, la République démocratique du Congo va-t-elle réautoriser bientôt l'exportation de son cobalt ? Réponse dans les semaines qui viennent et RFI ce matin explore les différents scénarios. Pour ou contre les OGM, le débat fait rage dans de multiples endroits dans le monde et nous on est au Ghana, au nord du Ghana, où la multinationale Bayer Monsanto place ses pions dans la culture du niébé. Afrique Éco dans 5 minutes. On sera ensuite à la Réunion sur la route de la cocaïne. Nouvelle saisie ces derniers jours à l'aéroport Roland-Garros. Mais d'abord une rencontre, ou pas d'ailleurs, si vous le connaissez, si vous vivez au Cameroun, vous le connaissez peut-être depuis longtemps. On tend ce matin notre micro à l'humoriste Docta Kevin et à ses inconditionnels. Certains en effet suivent l'artiste depuis ses débuts il y a une décennie. Un artiste qui prend de l'ampleur puisqu'il a remporté en début d'année le prix RFI Talent du Rire. Il présente en ce moment son nouveau spectacle « My Life, ma vie ». À Douala et à Yaoundé, Richard Onanena s'est glissé parmi les spectateurs.
Le père avait sa façon de vendre. Et si vous ne voulez pas acheter, je peux aussi lire.
Sur scène, Dr. Kevin ne manque pas de charisme. Il se raconte avec autodérision dans un français limpide. Un humour de famille sans grossièreté.
C'est éviter d'être vulgaire. Dire des choses sans dire, on n'est pas obligé de faire des obscénités pour faire comprendre des choses aux gens. On peut parler de sexe sans prononcer le mot sexe. On peut parler de politique sans dire politique. On peut parler de beaucoup de choses. Donc, je pense beaucoup plus que c'est vraiment un humour de valeur.
J'ai vu tu parler dans ses oreilles. C'est gâche à vous. C'est ton mari?
Ce soir, à l'Institut français de Yaoundé, son public est venu lui témoigner sa sympathie. Anita et Claudel ont vu les deux premières représentations de son spectacle.
Beaucoup de rire, beaucoup de joie, et on se sentait vraiment impliqué. Le fait qu'il faisait participer le public, on se sentait vraiment impliqué. C'était pas un monologue.
Pour moi, c'est un talent brut, pur, et je pense que le meilleur reste à venir. Donc, que du bonheur, vraiment du bonheur.
Pourtant, de l'aveu du lauréat RFI Talent du Rire 2024, rien ne le prédestinait à faire carrière dans l'humour, une aventure qu'il a pourtant démarrée en 2012. Ce parcours, il le raconte aussi dans son spectacle « My Life ».
C'est vrai que c'est assez long, on ne peut pas résumer en une heure, c'est pas possible, mais c'était juste prendre quelques petites séquences marquantes de ma vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais « My Life », c'est un peu mon tout petit parcours.
Dans le milieu de l'humour, le talent de Dr. Kevin est reconnu. Pour l'humoriste Ulrich Takam, au-delà d'être drôle, c'est aussi un artiste entreprenant.
Je le trouve super intéressant comme artiste parce qu'il y a une grosse volonté de donner aux autres avec sa petite troupe du gospel comédie club. Donc je trouve qu'il a commencé à entreprendre bien avant la célébrité, ce qui est déjà une très bonne chose. Au-delà d'être drôle, c'est un bel artiste.
Mais il y a des joueurs célèbres quand même et t'es dit chérie, j'ai pas les habits, j'ai pas les chaussures et tu vois la carte de mon pays pleine.
Outre l'humour, Dr. Kevin travaille dans le secteur de la communication. Il a prêté sa voix à plusieurs entreprises pour des spots publicitaires. À 40 ans, le fondateur du Gospel Comedy Club aimerait vivre de son art. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Un reportage à retrouver bien sûr sur notre appli de podcast RFI Pure Radio et sur notre site spécialisé musique RFI, sur l'onglet musique plutôt du site RFI. Le nouvel album, peut-être le dernier de Damso, le rappeur belgo-congolais, article signé Pablo Patarine, à retrouver donc sur RFI.fr. À la une de l'actualité internationale de ce mercredi 4 juin, le comité international de la Croix-Rouge qui confirme la mort de 27 personnes après des tirs hier à l'aube près d'un centre de distribution d'aide à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Cela arrive deux jours après un drame similaire au même endroit. 31 personnes avaient alors été tuées. Le haut commissaire de l'ONU aux droits humains dénonce des crimes de guerre. Donald Trump signe le décret qui fait passer dès aujourd'hui de 25% à 50% les droits de douane imposés aux importations d'acier et d'aluminium, entrée en vigueur dans un petit quart d'heure, 10 minutes environ. Ils s'appliqueront à tous les partenaires commerciaux des États-Unis à l'exception du Royaume-Uni. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, est à Pyongyang. Il va rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, c'est ce qu'annoncent ce matin les agences de presse russes. En Corée du Sud, le dirigeant de centre-gauche Lee Jae-myung a été investi président ce matin au lendemain de sa victoire avec quasiment 50% des voix. Cela fait près d'un an maintenant que les paysans du nord du Ghana peuvent cultiver et commercialiser un niébé génétiquement modifié qui a été conçu au pays. D'après ses promoteurs, cette variété résiste mieux aux variations climatiques ou aux parasites. Mais cela fait polémique, notamment chez les fermiers ghanéens. C'est toute une économie qui pourrait s'en trouver bouleversée, notamment par l'arrivée de ces variétés avec, en toile de fond, le géant des semences Bayer, ex-Monsanto. Victor Cariou pose les termes du débat depuis Accra.
Plus de résistance face aux ravageurs de culture, moins de pesticides, un rendement jusqu'à 4 fois supérieur à sa variété traditionnelle. Voici les promesses du niébé BT, cette légumineuse génétiquement modifiée commercialisée depuis juillet 2024 au Ghana. Jérine Bionné est l'un des chercheurs ghanéens qui ont conçu cette variété.
C'est le fruit d'un travail collaboratif avec le Burkina Faso et le Nigeria. Nous avons négocié ensemble auprès de Bayer Monsanto pour avoir accès au gène avec lequel nous avons développé le niébé.
Selon le chercheur, les premières récoltes en octobre 2024 ont été un réel succès. Ce, malgré une sécheresse intense provoquant de nombreuses pertes chez les fermiers ayant planté le niébé traditionnel. Mais au-delà du rendement, Jérine Bionné espère surtout préserver la santé des agriculteurs.
Les fermiers ne souffriront plus de l'empoisonnement lié à l'usage de pesticides. Même chose du côté du consommateur. L'empoisonnement dû aux insecticides présents sur le niébé que l'on a acheté appartiendra au passé.
D'autres acteurs de l'agriculture ghanéenne craignent au contraire que ces nouvelles variétés provoquent une multiplication du risque sanitaire. Parmi eux se trouve l'Association des fermiers paysans du Ghana, forte de plus d'un million de membres à travers le pays. Awal Wepia en est le président. Il craint également une dépossession de la production au profit de multinationales du génie génétique.
Cela risque de détruire notre système traditionnel de distribution de graines. Nous avons des producteurs de graines. Si on introduit les cultures OGM, bien entendu que cela va supprimer leur travail. Les vrais problèmes à régler sont l'irrigation, la valeur ajoutée des cultures, la mécanisation et le marketing.
Réunis en coalition, les anti-OGM ont saisi la justice ghanéenne à deux reprises sans succès. Les tribunaux ont néanmoins insisté sur la nécessité de respecter le droit en vigueur par un corps législatif complet, selon Samuel Amofa, chargé de communication à l'Autorité nationale de biosécurité, la NBA.
Nous avons la loi de biosécurité, également la régulation sur la biosécurité, qui prévoit les lignes directrices sur ce qu'on peut cultiver. Nous sommes également signataires de nombreux protocoles internationaux en vigueur dans le monde entier.
À ce jour, le Ghana a autorisé la commercialisation de 14 autres cultures OGM de maïs et de soja. Victor Cariou, Accra, RFI.
Les matières premières, c'est une décision prise en février mais qui continue de secouer le marché du cobalt dans le monde. La République démocratique du Congo qui n'exporte plus depuis quelques mois son minerai. Bonjour Marie-Pierre Olfand.
Bonjour.
Le pays produit les deux tiers du cobalt mondial. L'annonce avait donc fait l'effet en février d'un séisme dans le secteur. La filière reste suspendue, Marie-Pierre, à ce que va décider la RDC d'ici la fin de ce mois de juin.
Effectivement, car la décision de Kinshasa a permis de faire remonter les prix, c'était son but, mais elle a aussi asséché le marché. Début 2025, les stocks disponibles à l'extérieur du pays étaient capables de répondre à 4 mois de consommation. Les usines de raffinage qui souffraient des prix bas manquent maintenant d'approvisionnement en matières premières. Et pour vous dire à quel point le marché a été bousculé, l'Institut du Cobalt qui regroupe les industriels de la filière détaille dans un rapport publié ces derniers jours 4 scénario en fonction de ce que Kinshasa pourrait décider.
Et quelle que soit, Marie-Pierre, la décision, elle aura forcément un impact sur l'équilibre du marché.
Oui, exactement. Les volumes qui sortiront de RDC dans les prochains mois seront déterminants pour savoir si le marché restera excédentaire. Selon les hypothèses, le trop-plein de cobalt pourrait durer jusqu'en 2030 au moins, ou au contraire laisser place à un déficit dès 2027. Et qui dit déficit, dit en général remontée des cours. Le positionnement de la République démocratique du Congo aura aussi un impact sur la demande. Les difficultés d'approvisionnement sur le long terme pourraient détruire la demande, comme on dit dans le jargon, et conforter les technologies qui se passent de cobalt.
Et pour l'instant, les besoins en cobalt, de toute façon, ne cessent d'augmenter.
Oui, selon des chiffres qui viennent d'être publiés il y a quelques jours, la demande n'a jamais été si forte qu'en 2024, avec une consommation de plus de 200 000 tonnes. Et elle pourrait doubler d'ici la fin de la la décennie. Le secteur le plus gourmand est celui de l'automobile. À l'horizon 2030, près de 60% du cobalt pourrait être absorbé par la fabrication de batteries. Les prévisions restent difficiles cependant, car elles sont mises à mal par la situation économique mondiale et par la politique de l'administration Trump, moins favorable à la généralisation des véhicules électriques.
Merci beaucoup Marie-Pierre Olfan, vous revenez demain. À 5 minutes du journal international, le rendez-vous avec nos amis du réseau La Première dans l'océan Indien. À la une, ce matin, on est pas mal sur l'île de La Réunion. On va débuter avec cette nouvelle saisie de drogue à l'aéroport international. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Et cette fois, il ne s'agit plus de Zamal, le nom local du cannabis ou de médicaments, mais bel et bien de cocaïne transportée par des mules, 2,5 kg de poudre blanche, en l'occurrence, qu'une passagère de 21 ans dissimulait sous ses vêtements. Antoine Garnier.
18 mules interpellées par la douane à leur arrivée sur l'île depuis le 1er janvier contre 23 sur l'ensemble de l'année 2024. Le tsunami blanc qui s'abat sur la Réunion semble s'intensifier au fil des ans. Nicolas Legal est le directeur régional des douanes.
Depuis plusieurs années, effectivement, un des constats, c'est que les quantités transportées augmentent. Où on avait, il y a quelques années encore, des quantités qui ne dépassaient pas les 500 grammes. Là, maintenant, on dépasse le kilo transporté de cocaïne. Mais on trouve également beaucoup de résines de cannabis qui sont importées par les mules et également des drogues de synthèse, des catinones qui ont fait leur apparition. Qui sont importés également par ces mules à La Réunion.
La cocaïne n'est donc pas la seule drogue que les réseaux de narcotrafiquants importent à La Réunion, mais ce produit est peut-être celui qui génère les bénéfices les plus juteux. Nicolas Legal.
La cocaïne à La Réunion, c'est encore plus de 150 euros le gramme. Donc effectivement, ça fait des quantités... c'est un marché rentable pour les trafiquants et c'est pour ça que, pour nous, retirer ces produits, alors intercepter et démanteler les réseaux, c'est important, mais déjà retirer ces produits de la circulation, c'est déjà une victoire pour la douane et toutes les quantités que nous saisissons sont des produits qui ne seront pas consommés à La Réunion.
Il y a une dizaine d'années, à La Réunion, l'essentiel des saisies de drogue dure était réalisé dans le fret postal. Aujourd'hui, les trafiquants utilisent des mules et les autorités s'inquiètent de voir le trafic de stupéfiants se dérouter vers la voie maritime. Un appareil permettant de scanner l'intérieur d'un conteneur équipera les douaniers du port à compter du mois d'août.
On reste dans le département 97.4 avec un tout autre sujet. Pour lutter contre la vie chère, l'OPMR appelle à réviser le BQP. Alors l'OPMR, c'est l'Observatoire des marges, des prix et des revenus, et le BQP, le fameux bouclier qualité-prix. Mais l'Observatoire appelle aussi à une baisse de la TVA sur les produits dits de première nécessité, et surtout, si possible, à davantage de concurrence. Reportage Bruce Régent.
Avant le dernier comité interministériel de 2023, l'OPMR avait déjà fait des propositions pour réguler la concentration.
On les réitère, effectivement.
Jocelyn Cavillot, vice-président de l'Observatoire, voudrait brider davantage la taille des grands groupes.
On propose une limitation des parts de marché pour que le jeu de la concurrence se passe un peu mieux. Une limitation à 25%, ça nous semble raisonnable.
À condition toutefois de changer aussi la base de répartition.
Aujourd'hui, ces parts de marché sont mesurées en termes de surface. Il nous semble qu'on mesure des parts de marché en termes de chiffre d'affaires.
Pour ça, mais le sujet fâche, il faudrait que tous les comptes soient publiés, obligation légale. Et un autre outil existe, inexploité.
Les remontées des tickets de caisse de manière électronique. C'est fait opérationnel dans l'Hexagone depuis 2020. C'est la loi. Pourquoi dans les Outre-mer et à La Réunion, ça se fait pas?
L'OPMR préconise aussi une réforme radicale de l'économie verticale.
C'est-à-dire d'interdire un même acteur, un même groupe, dans la production, dans l'importation, dans la distribution. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas qu'un acteur qui est dans ce modèle. Ça fait partie, ça, des demandes qui touchent le fond même du fonctionnement de nos économies.
C'est peut-être justement pour ça que c'est difficile à faire soutenir au niveau politique à Paris.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Bonne journée à vous également. Allez, dans 1 minute 30, le journal international sur RFI. On parlera bien sûr de l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs douaniers américains sur l'aluminium et l'acier. À la une de notre site RFI.fr et de notre appli onglet Afrique. Quelle suite à la main tendue par Martin Fayoulou au président Tshisekedi en RDC? Analyse RFI à lire. Et puis dans le prochain journal Afrique, dans une demi-heure, on parlera de l'alerte de Médecins Sans Frontières dans le territoire de Rutshuru pour la prise en charge des civils coincés dans les combats.
Ce jeudi, vivez les demi-finales de la Ligue des Nations sur RFI. Cédric De Oliveira.
C'est le retour de l'équipe de France. Les Bleus de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé affrontent l'Espagne de Lamine Yamal pour une revanche du dernier Euro. L'an dernier, la Roja l'avait emporté. Sera-t-elle la plus forte encore une fois à Stuttgart en Allemagne? Espagne-France, demi-finale de la Ligue des Nations. Rendez-vous ce jeudi sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.
Pourquoi RFI dit ça? Posez vos questions, Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire, pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 19h41 sur RFI.